on va lire cette fois le début du chapitre 12, l'institution de la Pâque. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit ni bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront: « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez: « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Voilà, jusqu'ici, cette lecture donc, qui nous parle de la fête de la Pâque. Et chaque peuple, chaque nation, en fait, ses fêtes. Si je vous parle de la France, si je vous dis Une fête qu'on célèbre chaque année en France, vous me dites? Une fête chaque année qu'on fête en France.
14 juillet.
Le 14 juillet. Merci. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet? On fête la naissance de la République. D'accord, c'est ça qu'on fête, en fait. C'est la 14 juillet 1789, la prise de la Bastille 1790, l'unité nationale, c'est toutes ces choses-là qu'on fête le 14 juillet. Alors c'est surtout aujourd'hui c'est surtout un jour de congé, mais en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se rappelle d'où on vient pour développer un sens de qui nous sommes en tant que peuple, en tant que nation française. C'est ça qu'on fait et c'est pareil ailleurs dans le monde. Si vous pensez au jour de l'indépendance aux États-Unis, au jour de l'unité en Allemagne, ou au jour de la Pâque pour le peuple juif. C'est un peu leur jour de l'indépendance à eux. Et c'est pas étonnant que du coup, chaque année, les Juifs continuent jusqu'à aujourd'hui, continuent de célébrer la Pâque. Mais il y a beaucoup plus que ça dans ce passage, il y a beaucoup plus que simplement la naissance d'une nouvelle nation. On va le voir au fur et à mesure, mais on le voit d'entrée à un mot. Si vous regardez au verset 1, il y a un mot qui apparaît plus d'une centaine de fois dans le livre de l'Exode, mais qui est utilisé ici pour la première fois. Regardez le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël. La communauté d'Israël. Communauté, c'est la première fois que les Israélites sont présentés comme une communauté. Jusque-là, c'était des Hébreux, c'était les fils d'Israël. Mais ça, c'est terminé maintenant. C'est plus un simple groupe ethnique. Ils sont un peuple maintenant, unis par une même expérience, qui partagent une même identité avec un même but. C'est une communauté. Éda, en hébreu, qui est traduit en grec par ecclésia, ce qui donne en français l'Église. L'Église. Ce qui signifie ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est ça, Ecclésia, hein, être appelé hors de l'esclavage en Égypte. Mais l'esclavage en Égypte nous parle d'un autre esclavage, bien sûr, l'esclavage du péché hors duquel Dieu nous a appelés. Donc c'est, si vous voulez, c'est la naissance de l'Église à quelque part, la Pâque, c'est ça. En tant que chrétien, on est à la fois, bien sûr, français, américain, allemand et j'en passe, et membre du royaume de Dieu, membre du peuple du royaume, l'Église. Et de la même manière qu'en tant que Français, le 14 juillet évoque directement nos racines, notre identité française peut-être, en tant que membre du royaume, la Pâque nous rappelle qui nous sommes, d'où on vient, quelle est notre identité commune. Et la Pâque nous rappelle ce que nous avons en commun, à savoir, dans ce passage, quel était le poids de notre dette, quel a été le prix de notre rançon, et finalement, quelle est la perspective de notre rédemption. C'est les trois choses qu'on va voir qu'on a en commun, que la Pâque nous montre que nous avons en commun. Qu'est-ce que ça signifie? Juste pour tirer le parallèle un tout petit peu plus loin, je ne vais pas aller très loin avec ce parallèle, parce qu'il n'y a pas de sens d'opposer le fait qu'on soit français et chrétien, il n'y a pas d'opposition du tout, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous que le jour qui marque la naissance de l'Église, qui nous rappelle qui nous sommes, d'où on vient, c'est pas la victoire éclatante, la prise de la Bastille ou une victoire militaire éclatante, mais c'est le sacrifice sanglant d'une victime sans défense. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est ce qu'on va voir avec ces trois points. Donc tout d'abord, ça nous dit quelque chose du poids de notre dette. Quel était le poids de notre dette? Si vous étiez là la dernière fois que j'ai prêché, vous vous rappelez que toute cette partie du livre de l'Exode, du chapitre 7 au chapitre 12, c'est les 10 plaies d'Égypte. C'est ça dont il est question, hein, l'eau du Nil changée en sang, des invasions de moustiques, des épidémies, de la grêle, les ténèbres, etc. Dieu fait tomber son jugement sur l'Égypte à cause de l'injustice du Pharaon et des Égyptiens. Est-ce que ça doit nous étonner qu'un Dieu d'amour, comme le Dieu de l'abus, se présente comme un Dieu de grâce, un Dieu qui est lent à la colère? Est-ce que ça doit nous surprendre qu'un Dieu d'amour est aussi un Dieu de justice? On pourrait trouver ça choquant à première vue. Si Dieu est vraiment bon, est-ce qu'il ne devrait pas pardonner tout le monde? Mais vous rappelez La dernière fois, c'est un petit rappel, c'est que si Dieu ne se mettait pas en colère contre l'injustice qu'on voit partout autour de nous, s'il ne mettait pas un terme définitif à la violence, comme il le fait ici en jugeant les Égyptiens, qui, je vous le rappelle, étaient coupables d'un génocide. Hein, il mettait à mort les bébés des Hébreux. Si Dieu ne mettait pas un terme à cela, il ne serait pas un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour se doit d'être un Dieu de justice aussi. Et on va voir aujourd'hui que cette réalité va encore beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Mais c'était juste une parenthèse. Ce qu'il faut voir ici, c'est que l'institution de la Pâque, elle s'inscrit dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le cadre de cette dernière et dixième plaie, des 10 plaies que Dieu envoie contre l'Égypte. Et quand on comprend ça, il y a quelque chose qui devrait nous surprendre. Qu'est-ce qui est très différent entre cette dernière plaie, cette fois, par rapport aux 9 autres plaies? Je vous rappelle, jusque-là, Dieu annonçait la plaie, elle s'accomplissait, et c'est Dieu qui faisait une démarcation entre son peuple et les Égyptiens pour que son jugement tombe sur les Égyptiens uniquement. Qu'est-ce qui a changé ici? Dieu annonce la plaie, Dieu l'accomplit, c'est les deux passages que Darine nous a lus tout à l'heure, mais entre les deux, il y a l'institution de la Pâque, et les Israélites doivent faire quelque chose, doivent faire quelque chose pour échapper au jugement. Regardez le verset 12 encore une fois. Verset 12. L'Éternel dit: Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez, les Israélites ici devaient faire quelque chose. Sinon, leur premier-né serait frappé au même titre que les premiers-nés des Égyptiens. Et venez voir maintenant, juste un peu plus loin, au chapitre suivant, le chapitre 13, verset 13. Quelque chose qui complète ce qu'on vient de lire. Chapitre 13, verset 13, où Dieu explique aux Israélites ce qu'ils devront faire une fois qu'ils seront sortis d'Égypte, en fait, une fois même qu'ils seront arrivés dans la terre promise. Chapitre 13, verset 13. Dieu dit: Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera: Que signifie cela? Tu lui répondras: Par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Alors vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de fils premier-né qui sont rachetés par un agneau? De quoi est-ce qu'il est question ici? Dans quel monde est-ce qu'on est? Ça paraît très loin. Et je vous dirais qu'effectivement, pour comprendre ce qui est en train de se passer ici, il nous faut d'une part enlever l'espace d'un instant nos lunettes d'occidentaux modernes individualistes pour nous transposer au Proche-Orient ancien, et d'autre part voir que cet épisode-là, c'est finalement qu'un chapitre parmi plusieurs autres chapitres dans cette grande histoire que nous raconte la Bible, et que ces chapitres se complètent, qui s'éclairent les uns les autres. Le premier chapitre de cette histoire, pour nous ce matin en tout cas, c'est celui d'Abraham, en Genèse 22. Vous vous rappelez? Abraham qui devait sacrifier son fils Isaac, son fils premier-né, justement. Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac et va l'offrir en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Et nous, avec nos catégories modernes, on se dit, mais Abraham, il a dû trouver cet ordre complètement fou. Il devait se dire, mais c'est un monstre de me demander une chose pareille. Et pourtant, si vous rappelez l'histoire, Abraham est parti avec son fils en direction de la montagne que Dieu lui avait indiquée. Ce qu'il faut comprendre rapidement ici, c'est que dans le Proche-Orient ancien, les gens ne pensaient pas de manière individualiste comme on a tendance à le faire aujourd'hui, à leur situation personnelle, à leur accomplissement personnel. Tout tournait autour de la famille. Si un membre de la famille faisait quelque chose de honteux, c'est toute la famille qui était dans la honte. Par rapport à ça, Probablement qu'aujourd'hui, notre culture où tout tourne autour de l'individu, elle est probablement assez déséquilibrée en fait. On voit pas le lien de solidarité qui est là. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'en fait, on est beaucoup plus le produit de notre famille qu'on veut bien l'admettre? Moi, je trouve que plus je grandis, plus je vieillis, plus je réalise qu'en fait, je ressemble énormément à ma famille. Il y a un lien de solidarité qui est là. Mais bref. Dans la culture du Proche-Orient ancien, où du coup les gens n'avaient pas l'habitude, n'avaient pas une conscience d'eux-mêmes en termes d'individus autonomes, mais en tant que membres d'une famille, et dans une culture où le premier-né, c'est celui qui héritait de toutes les bénédictions, de toutes les propriétés de la famille, c'était lui qui devait poursuivre la lignée familiale, si vous voulez, c'est lui qui incarnait tous les espoirs de la famille. Dans cette culture-là, le message de Dieu est extrêmement clair. À Moïse, mais aux Israélites aussi. Il est en train de leur dire que la vie de tout premier-né est à moi. J'ai un droit de propriété. Il y a un prix de rançon sur la tête de chaque premier-né si leur vie m'appartient, à moins qu'elle soit rachetée. Ce qui indique que chaque famille a une dette envers Dieu. Chaque famille a une dette que le premier-né va payer. En solidarité avec sa famille, il y a une dette de péché que chaque individu à la surface de la terre a vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que, pour revenir un instant à Abraham, c'est pour ça qu'Abraham ne se disait pas que c'était un ordre complètement fou. Il n'était pas en train de se dire, mais quel monstre! Quand il était en train d'avancer côte à côte avec son fils, en train de monter avec Isaac au sommet de la montagne. Alors, comprenez-moi bien, bien sûr qu'il luttait. Mais la lutte d'Abraham, c'était pas tant, mais comment est-ce que tu peux être aussi injuste, éternel, de me demander mon fils en sacrifice? Parce qu'il savait que Dieu faisait que réclamer sa dette. La lutte, c'était plutôt, mais comment est-ce que tu peux être juste et réclamer la dette, et pourtant rester un Dieu de grâce et d'amour qui est fidèle à la promesse qui m'a fait que ma descendance serait aussi innombrable que les étoiles du ciel? C'est ça la lutte finalement d'Abraham. Et vous vous rappelez comment l'histoire se termine? Dieu arrête la main d'Abraham et il lui dit que c'est lui en fait, c'est Dieu qui pourvoira. Il pourvoira. Et pour savoir comment Dieu va pourvoir, eh bien il faut revenir au deuxième chapitre, il faut avancer au deuxième chapitre, revenir à notre passage. On a vu Abraham-Isaac, Moïse et Israël maintenant, où on voit exactement la même chose dans notre passage. Regardez, chaque famille a une dette de péché, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira, sous-entendu, si vous sortez, qui que vous soyez, premier-né ou pas, le destructeur va vous frapper. L'idée, c'est qu'un agneau devait être sacrifié pour racheter le premier-né, mais c'était pour le salut de toute la famille qui était en lien de solidarité avec lui. Si quelqu'un sortait la nuit, il allait être frappé par le destructeur. Mais s'il restait à l'intérieur, verset 23, quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici aujourd'hui? Ce que ça nous montre, c'est que chacun d'entre nous dans cette pièce a une dette de péché vis-à-vis de Dieu. Vous dites peut-être, j'arrive pas à croire ça, que j'ai une dette de péché vis-à-vis de Dieu. On n'est plus comme à cette époque. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'y a plus de normes absolues, morales, etc. Finalement, chacun doit chercher ce qui lui semble juste, vivre selon ses normes, etc. Comment est-ce que je pourrais me permettre de dire que chacun d'entre nous a une dette devant Dieu? On peut se demander ça. Mais vous voyez, je crois pas. Vous me direz si je me trompe, mais je ne crois pas qu'on ait, chacun d'entre nous ici, qu'on ait des difficultés insurmontables avec l'idée d'un Dieu qui juge les génocidaires, comme le Pharaon ou comme Bachar el-Assad. pour penser à l'actualité. On n'a pas de difficulté insurmontable avec un Dieu qui juge ça. Mais on a beaucoup plus de peine, n'est-ce pas, à imaginer que Dieu puisse punir des assez bonnes personnes, finalement, des gens plutôt sympas comme nous. Pourquoi? Est-ce parce qu'on sépare le monde entre les bons et les mauvais? On a des normes morales. Mais qu'est-ce qui nous permet de croire que nos normes morales sont les bonnes, finalement? Qu'est-ce qui nous permet de juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais? Est-ce que en faisant ça, en faisant des catégories comme ça, on n'est pas en train de montrer implicitement qu'en fait, oui, il y a des absolus moraux? On va peut-être pas dire que c'est ceux de Dieu, mais les nôtres en tout cas. Mais remarquez aussi une chose, c'est que même les nôtres, même nos normes, on n'arrive pas à les respecter. Si je devais, moi, être jugé à la fin de ma vie sur la base des exigences que je porte sur les autres, je m'en sortirais jamais. Essayez de vous imaginer de vivre votre vie avec un appareil comme ça à votre ceinture, qui enregistre tout ce que vous faites, et qu'à la fin de votre vie, vous allez être jugé en fonction de ce qui a été enregistré, les disputes, les mots blessants, les insultes, que à la fin de votre vie, vous allez être jugé sur la base de ça et des exigences que vous portez, vous, sur les autres, on ne serait jamais à la hauteur. Et pourtant, c'est simplement nos normes à nous. Imaginez par rapport à celle de Dieu, qui nous a créés, qui attend de nous qu'on vive à chaque instant pour lui, qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Moi, je crois qu'au fond, tout le monde sait qu'on a une dette de péché vis-à-vis de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on cherche par tous les moyens à payer cette dette. En nous comparant avec ceux qui nous entourent, en essayant de nous rassurer en disant que finalement on n'est pas si mauvais que ça, qu'on est des gens plutôt bien, vraiment. Il n'y a pas de bon et de mauvais, nous dit la Bible. On a tous une dette. La nuit de la Pâque ici, ce qui a fait une différence entre les Israélites et les Égyptiens, c'est pas que certains étaient bons et d'autres mauvais, c'est que certains se sont réfugiés derrière le sang d'un agneau sacrifié pour prix de leur rançon. C'est ça qui a fait la différence. Et c'est la deuxième chose que il nous faut voir ce matin. On a vu quel est le poids de notre dette. Deuxièmement, quel est le prix de notre rançon? Le prix de la rançon des premiers-nés israélites nous est donné ici au verset 5. Regardez encore une fois. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et puis regardez un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 46, quelques informations complémentaires. Au verset 46, Dieu dit: on la mangera, la Pâque, l'agneau, dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Donc, à la place des premiers-nés, comme substitut, c'est ça l'idée, comme substitut, un agneau sans défaut devait être offert, sacrifié, entre les deux soirs, sans qu'aucun os ne soit brisé. Et son sang devait être appliqué sur les montants de la porte comme un signe de leur foi en fait, un signe qu'ils avaient confiance que le sang de l'agneau payait leur dette, que c'était ça le prix de leur rançon. Et tous devaient en manger, et tout devait être mangé. S'il y avait des restes, il fallait les brûler. Je ne vais pas lire les versets, mais s'il y avait des restes, il fallait les brûler. Ce qui veut dire que le but premier, en tout cas, du repas, c'était pas simplement de fortifier les Israélites pour leur long voyage. Ils n'étaient pas en train de préparer un pique-nique. Ils ne pouvaient rien emporter avec eux dans le désert. Le repas avait avant tout une portée symbolique. Ce qui est aussi indiqué par le fait que ils devaient répéter ce repas chaque année, génération après génération, comme un rituel. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde la suite de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, on remarque que la Pâque a très rarement été célébrée. Elle n'a presque jamais été célébrée, par oubli peut-être, par désobéissance. Mais à chaque moment clé de leur histoire, la Pâque a été de nouveau célébrée. C'était le cas au mont Sinaï, lorsque Dieu a passé une alliance avec eux, juste après le passage du Jourdain, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Lors de la réforme de Josias, encore, c'est-à-dire des siècles et des siècles, après des siècles et des siècles où des juges et des rois s'étaient succédés à la tête d'Israël sans que la Pâque soit célébrée, lors du retour d'exil, sous la direction d'Esdras et Néhémie, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même s'empare de la symbolique de la Pâque. Venez voir avec moi en Luc 22, on va lire ce passage extrêmement important pour nous ce matin. Évangile de Luc, chapitre 22. À quelque part, c'est le troisième chapitre, si vous voulez, de cette grande histoire. On a vu Abraham, Isaac, Moïse et Israël, et maintenant Jésus-Christ. Luc 22, verset 14. La nuit avant sa mort, la veille de sa crucifixion, Jésus prend un dernier repas avec ses disciples, et voilà ce qu'on lit. Luc 22, 14. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est le repas de la Pâque. Et voilà ce qu'on apprend un peu plus loin, verset 19. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il y a deux choses très surprenantes dans ces versets. Premièrement, lors de la Pâque, le chef de maison, celui qui présidait le repas, devait se lever pour expliquer aux autres quelle était la signification du repas. Du coup, lorsque Jésus s'est levé, ses disciples s'attendaient à ce qu'ils prennent le pain, qu'ils le rompent et qu'ils leur disent: Ceci est le pain d'affliction que nos pères ont mangé dans le désert. C'est ça que les Israélites disaient quand ils mangeaient le pain sans levain. Et Jésus se lève et qu'est-ce qu'il dit? Tout autre chose. Ceci est mon corps brisé pour vous. C'est mon sang versé pour vous. Ce qu'il est en train de dire, c'est voilà ce que ça signifie la Pâque. Ce qui m'amène à la deuxième grande surprise dans ces versets, c'est que dans le récit que les évangélistes nous font ici, ils précisent bien qu'il y avait des pains sans levain. Il y avait du vin, comme lors d'un repas de la Pâque, mais il n'y avait pas d'agneau. En tout cas, c'est passé sous silence. Et comme l'a dit un commentateur que j'ai lu cette semaine, comme l'a très bien dit ce commentateur, s'il n'y avait pas d'agneau sur la table, c'est parce que l'agneau était à la table, en fait. C'est mon corps, c'est mon sang. Et vous voyez, du coup, quand on lit ces versets à la lumière de la Pâque, tout d'un coup, toutes les pièces du puzzle s'imbriquent, trouvent leur place. Pensez à Jean-Baptiste lorsqu'il voit Jésus passer au début de son ministère et qui dit: Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi? Parce que il est sans défaut. C'est le seul qui n'a pas une dette de péché vis-à-vis de Dieu sur la croix. Alors que la pratique courante, vous vous rappelez peut-être, pour hâter la mort des crucifiés, c'était de leur briser les jambes, les os des jambes. À Jésus, on a simplement percé le côté pour vérifier qu'il était bien mort. Et en Jean 19, on lit ceci: Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et Matthieu, encore, dans son évangile au chapitre 27, pardon, il précise que c'est exactement entre les deux soirs que Jésus est mort. C'est-à-dire au moment précis où partout dans Jérusalem, les agneaux de la Pâque étaient sacrifiés. Vous voyez le lien extrêmement clair. C'est lui le prix de notre rançon. Pendant 1500 ans à peu près, le peuple d'Israël a mangé la Pâque en prévision, en préfiguration de la mort de Jésus. Depuis 2000 ans, l'Église mange la Pâque en souvenir de sa mort. C'est le repas du Seigneur. Est-ce que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement ici, est-ce qu'on a bien conscience que c'est un repas de vie ou de mort, en fait? Est-ce que, enfin, j'aimerais vous encourager, peut-être la prochaine fois qu'on prendra la Pâque, dans quelques semaines, d'avoir cette image des Israélites en Égypte en tête, qui se nourrissaient de l'agneau, dont le sang était la marque qui les préservait, le sang était la marque sur la porte qui les préservait. Que quand on prend ce repas, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, notre salut devant Dieu ne dépend de rien d'autre que du sang de Christ. Ça peut paraître révoltant quand on pense au sacrifice de Christ, au sang versé. Est-ce que c'était bien nécessaire? Est-ce que Dieu, pour cette fois, est-ce que Dieu n'aurait pas pu effacer la dette pour cette fois? Je dirais non, bien sûr. Réfléchissez, Dieu ne peut pas simplement effacer une dette sans payer le prix. Réfléchissez, si quelqu'un vous a fait un tort, je sais pas moi, si quelqu'un vous a, par exemple, si quelqu'un a trahi votre confiance en allant partager plus loin quelque chose de personnel que vous lui avez confié, et qu'en plus cette personne détourne ce que vous lui avez dit, si quelqu'un vous fait un tort, il y a une dette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là entre vous et la personne qui ne peut pas être ignoré simplement. Alors soit vous allez faire payer la dette à la personne, en lui rendant la monnaie de sa pièce, en lui rendant la vie misérable, ou alors vous allez pardonner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez, vous devez accepter que votre réputation a été salie, vous devez accepter que vous n'allez rien faire lorsque vous avez peut-être envie de blesser cette personne, vous avez peut-être envie d'avoir des mauvaises pensées. Vous êtes en fait en train de payer la dette vous-même. Quand il y a eu un vrai tort, quelqu'un doit payer. Et si même nous, avec notre sens moral un peu incertain, on arrive bien à se rendre compte de ça, alors combien plus ça doit être le cas pour Dieu. Et en fait, ce qui peut nous apparaître comme quelque chose d'absolument révoltant, c'est ce qu'il y a de plus glorieux, le sacrifice de Christ. Parce que c'est là, à la croix, en Christ, que la justice parfaite de Dieu et son amour sont totalement réconciliés. Et c'est totalement unique à la foi chrétienne, ça. Dans toutes les religions humaines, vous avez soit un Dieu de grâce qui ne punit pas le péché, mais qui du coup est injuste, ou alors vous avez un Dieu juste qui condamne le péché, mais c'est pas un Dieu de miséricorde qui fait grâce. En Jésus-Christ seul, on a la justice parfaite du Dieu trois fois saint qui voit les choses qu'on a pu voir aux nouvelles cette semaine dans le monde et qui pleure. Le Dieu trois fois saint qui voit le mal autour de nous et en nous et qui ne tolère pas ça. En Christ seul, on voit cette justice parfaite et l'amour de Dieu totalement réconcilié. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu ici, infini? Alors que Dieu avait accordé à son peuple pécheur et rebelle de pouvoir sacrifier un agneau pour sauver la vie à leur fils premier-né, Dieu lui a donné son fils bien-aimé pour être l'agneau sacrifié. Et c'est lui qui a payé le prix par son silence. Pour nous ici aujourd'hui, ça veut dire simplement ceci. L'application est évidente, n'est-ce pas? C'est que la seule chose qui nous assure la faveur de Dieu au quotidien, c'est le sang de Christ. Quand on se lève le matin, quand on va à notre travail, là où Dieu nous a placés, la seule chose qui nous assure la faveur de Dieu, c'est de se savoir j'ai envie de dire, entre les quatre murs de cette maison dont la porte est marquée de son sang. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que on peut vivre chaque jour avec l'état d'esprit d'un esclave qui trime pour obtenir la faveur de son maître impitoyable? On fait notre travail par devoir, on va au culte par habitude, sans joie. On passe notre temps à nous inquiéter pour tout. Comment est-ce qu'on va être perçu? Est-ce qu'on sera à la hauteur, à la hauteur de nos attentes, à la hauteur des attentes des autres? Est-ce qu'on est en train d'essayer de payer la dette? Mais il n'y a rien de plus absurde que ça. Le prix de notre rançon est si élevé que seul Dieu pouvait le payer. Et c'est ce qu'il a fait en Christ. C'est la deuxième chose. Et je passe à la dernière. On a vu que la Pâque, vous vous rappelez, c'est ce moment qui marque la naissance de l'Église. Et de regarder à ça nous rappelle qui nous sommes, d'où on vient. Ça nous rappelle qu'on a en commun une même dette vis-à-vis de Dieu. On a vu quel était le prix de notre rançon. Et finalement, il faut voir quelle est la perspective de notre rédemption. Parce qu'il y a un but, il y a une visée à notre salut. Si vous voulez revenir juste avec moi en Exode 12, si vous êtes toujours dans le Nouveau Testament, on peut juste venir voir rapidement. J'aimerais juste vous montrer à quel point il y a une insistance dans ces versets sur le fait que cette nuit de la Pâque est un nouveau départ pour le peuple. C'est un nouveau départ. Regardez, déjà ils ont un nouveau calendrier, si vous voyez au verset 2. Un nouveau calendrier. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, le mois de la Pâque. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On apprend un peu plus tard au chapitre 13 que ça s'appelle en fait le mois des épis ou littéralement le mois des jeunes pousses. Pourquoi? Parce que ça correspond plus ou moins à cette période en fait. C'est fin mars, début avril. C'est le printemps. C'est la nature renaît et le peuple d'Israël avec. Ils ont un nouveau calendrier. c'est un nouveau départ. Mais on le voit aussi à autre chose, le fait que c'est un nouveau départ, on le voit à une chose très particulière que le peuple d'Israël doit faire. Regardez au verset 14. Il y a eu une insistance pendant la lecture tout à l'heure, vous êtes peut-être endormi à ce moment-là. Il y a une insistance sur plusieurs choses, je vais vous juste vous relire ce bout-là, vous allez voir que c'est quelque chose en fait extrêmement important. Verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. C'est extrêmement fort. Les Israélites devraient supprimer le levain de leur maison. Pourquoi? Il y a en fait deux raisons qui nous sont données dans la Bible. Une première ici dans le livre de l'Exode. Si vous regardez au verset 39, la première raison. Vous voyez au verset 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Pourquoi? Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. Donc la première raison qui nous est donnée ici pour laquelle ils devaient manger des pains sans levain, c'est que ils avaient quitté l'Égypte en coup de vent. Ils étaient pèlerins dans le désert en direction de la terre promise. Voilà, ils ne pouvaient pas s'attarder. C'est une première raison, mais la deuxième, elle nous est donnée dans le Nouveau Testament. Venez voir avec moi en 1 Corinthiens 5, verset 6. Et vous allez voir que cette raison-là est claire, la première raison que je viens de vous donner. En 1 Corinthiens 5, vous vous rappelez, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, et une église où il y avait des divisions, des disputes, il y avait même des personnes qui vivaient ouvertement dans le péché dans l'église. Et en 1 Corinthiens 5, verset 6, Paul dit ceci: Il n'est pas beau votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Ce qu'il faut comprendre, et ça vous le savez sans doute si vous avez déjà fait du pain avec du vrai levain, c'est que le levain, c'est une petite partie de la pâte du pain précédent qu'on garde et dont on se sert, qu'on laisse fermenter et qu'on utilise après, qu'on incorpore à une nouvelle pâte pour faire lever toute la pâte. Mais à cette époque-là, il y avait des risques d'infection quand on faisait ça, surtout si le processus était poursuivi comme ça indéfiniment, on prenait la pâte, on laissait fermenter, on faisait du pain et ainsi de suite. Il y avait des risques d'infection si on laissait le processus continuer indéfiniment, sans s'arrêter. Et par moments, il fallait repartir à zéro, supprimer le vieux levain, reprendre une pâte nouvelle et puis recommencer. Et quand les Israélites ont quitté le pays d'Égypte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont purifiés du vieux levain. Ils ont laissé le vieux levain en Égypte. Et cette période de plusieurs jours, cette période des pains sans levain, elle avait pour but de redémarrer. C'était avec ce pain-là, cette pâte-là, qu'ils allaient faire une pâte nouvelle. Mais à nouveau, dans ce passage-là, Paul nous dit qu'en fait, c'était une image, une préfiguration de ce que nous vivons en tant qu'Église, déjà, parce que c'est ça le sens de ces versets. Il y avait une personne qui vivait dans le péché ouvertement dans l'Église, et Paul dit purifiez-vous du vieux levain, sous-entendu, exercez la discipline ecclésiastique, parce qu'un peu de levain fait gonfler toute la pâte, ça veut dire le péché va se répandre aux autres. C'est la première chose, mais ça s'implique aussi de manière générale à chacun d'entre nous dans notre vie personnelle. Ce que Paul est en train de nous dire ici, en fait, c'est la Pâque a eu lieu, Christ, notre Pâque, a été immolé, on est maintenant dans les jours des pains sans levain. On est dans les jours des pains sans levain jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a conscience de ça? Qu'on est dans cette période-là? Que d'une part, ça veut dire que on est des pèlerins, en fait, en route vers la terre promise, la nouvelle création. Quel est le regard, du coup, que nous portons sur les choses de cette vie? Quelle est la valeur que nous leur accordons? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le monde matériel est mauvais, qu'il faudrait quelque part se retirer dans une espèce de monde spirituel, c'est pas du tout ça, c'est totalement faux. Mais est-ce que, du coup, on agit dans tous les domaines de notre existence? Ça peut être aussi bien notre vie d'église, notre vie de travail, notre manière de gérer les finances, notre manière d'éduquer les enfants, peu importe. Est-ce que dans tous ces domaines-là, on agit en se rappelant que le but de notre existence, c'est que l'image de la gloire de Dieu soit visible aux quatre coins de la terre? Et du coup, est-ce que dans tout ce qu'on fait, on cherche à être témoin du royaume de Dieu, ou est-ce qu'on cherche simplement à bâtir notre royaume dans cette vie? Ça, c'est la première chose. Quand on se rappelle qu'on est dans cette période-là, des pains sans levain, on doit se rappeler, on est pèlerin, on est en route. Et l'autre chose que ça doit nous rappeler, c'est que Dieu nous a sauvés dans un but, dans le but de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, irréprochables. Est-ce qu'on se rappelle que c'est ça la perspective de notre rédemption? Je sais pas si vous êtes comme moi, on a parfois l'impression que notre salut, c'est quelque chose de passé et que maintenant, voilà, il faut vivre. Il s'est passé quelque chose, maintenant il faut vivre, il faut poursuivre avec notre vie chrétienne. Et c'est vrai que si vous êtes en crise, il s'est passé quelque chose d'important, de radical dans votre vie, mais la grande délivrance, elle est à venir. Est-ce que vous voyez votre vie là maintenant comme une marche, comme une course même? Ou comme un moment sympa qu'on passe en Égypte? Rappelez-vous ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance les yeux fixés sur Jésus. Voilà, c'est quelques applications. Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste conclure rapidement en attirant votre attention sur un quatrième et dernier chapitre de cette grande histoire. Vous vous rappelez, on a eu le premier chapitre, Abraham et le sacrifice d'Isaac, deuxième chapitre, Moïse et la Pâque en Égypte, troisième chapitre, Jésus et son sacrifice à la croix. Et dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous rapporte une dernière vision qui pour nous sera un peu le dernier chapitre, le dernier mot pour ce message. Jean dit ceci, c'est au chapitre 5. Et je vis au milieu du trône un agneau debout qui semblait immolé. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le livre de l'histoire humaine, un livre de jugement et de salut. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter les louanges de l'agneau par un cantique dans le À toi la gloire, c'est le 87, le 67, pardon. 67 à l'agneau sur son trône.